Alors, 6h05, Monique, on revient sur cette nouvelle qui est quand même majeure. Deux étudiantes de l'Université Concordia qui auraient été agressées.
Oui, et l'Université qui a émis une sérieuse mise en garde hier à cet effet. J'ai pris connaissance de ce courriel qu'on a envoyé à l'interne aux étudiantes, mais aussi aux membres du personnel. On les informe que deux jeunes femmes, deux étudiantes, auraient été droguées et agressées sexuellement avec ce qu'on pourrait appeler le même stratagème, le même modus operandi, c'est-à-dire qu'on aurait attiré ces jeunes femmes-là à l'extérieur du campus avec un faux prétexte. Donc, elles auraient reçu des invitations via les réseaux sociaux pour, par exemple, une opportunité de carrière, de développement. Donc, elles se sont présentées, selon ce qu'on comprend des circonstances, au rendez-vous en question. Et c'est là qu'elles auraient été droguées et agressées. L'université dit avoir été avisée seulement la semaine dernière. Toutefois, les deux événements auraient eu lieu à plusieurs mois d'intervalle au cours de la dernière année. Bien sûr, le SPVM a été mis au courant et l'université qui appelle ses étudiants à la prudence pour tout ce qui pourrait être offre de nature professionnelle sur les réseaux sociaux, mais des gens qui approchent, là, donc ce n'est pas sollicité. L'université qui réfère également au centre d'aide aux survivantes et survivants d'agressions sexuelles.
Une tentative de meurtre à Montréal.
Vers 19h45 hier soir, dans Rosemont-Petite-Patrie, un homme de 28 ans, atteint par balle. Ce qu'on sait des circonstances, c'est qu'il sortait d'un dépanneur, marchait sur la rue Saint-Zotique, tout près de la rue Chabot, et il a été abordé par un individu qui portait un capuchon. Le suspect qui a ouvert le feu en sa direction. Au moins un coup de feu. Ensuite, il s'est enfui. Les motifs exacts restent à être déterminés, mais c'est quelqu'un qui est connu, la victime des policiers. Donc, on pourrait avoir ici affaire à peut-être un règlement de compte lié aux gangs de rue. Aucune arrestation pour l'instant. Et quand l'état de santé de la victime va le permettre, les enquêteurs vont pouvoir le rencontrer.
La preuve est maintenant close au procès de Tonia Curceau.
Le témoignage est effectivement terminé. Il a tout nié. Si on devait résumer ça, là, ce serait probablement ce qu'on pourrait dire. Il dit n'avoir jamais pris part au système de ristourne de partage de contrats à Laval. Il a appris, selon ce qu'il dit, que ce système existait seulement en 2013 quand il a été arrêté. Et ce qui est ressorti du contre-interrogatoire, je vous dirais, là, c'est qu'on a tenté de savoir pourquoi il n'y avait pas posé de questions, davantage de questions à la suite des perquisitions qui ont eu lieu en 2012. Parce qu'on sait que ces entreprises ont été perquisitionnées en 2012. Donc lui, il dit, je l'ai appris seulement qu'en 2013. Et là, lui, ce qu'il réponse qu'il aurait demandé à ses présidents, qui, on se souvient, la semaine dernière, il disait que c'est eux qui avaient 100% des responsabilités. Et ce qu'on lui aurait dit, c'est qu'on n'avait aucune idée des motifs de perquisition. Ça s'est arrêté là. Donc, autrement dit, l'UPAC débarque, perquisitionne pendant 7 heures de temps, la même journée où on frappe à l'hôtel de ville de Laval. Mais visiblement, on s'en est pas trop fait avec ça. Donc, le procès pour fraude, complot, abus de confiance va se poursuivre jeudi. Ça va être le début des plaidoiries. Ça va se poursuivre jusqu'au week-end, jusqu'à vendredi. Et en début de semaine prochaine, le jury devrait être séquestré. Ce sera à eux de trancher. Donc, est-ce qu'ils vont, oui ou non, croire la version de Tonia Curceau?
Merci, Monique. Tout près de 6 heures. Et là, il y a des auditeurs qui me disent que l'électricité semble revenue du côté de Chambly. Alors, bonne nouvelle. On va aller voir ce qui se passe maintenant du côté de Repentigny.